Merci d'écouter France Inter, il est 19h20.
France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur les états généraux de l'alimentation qui seront lancés en France d'ici le 14 juillet. C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron que de réunir ainsi tous les acteurs de l'agroalimentaire, la chaîne qui va de la fourche à la fourchette, comme le dit Nicolas Hulot. On pourrait résumer l'enjeu de ces états généraux à deux questions. Comment les agriculteurs peuvent-ils mieux vivre de leur travail? Et comment les consommateurs peuvent-ils mieux manger à des prix raisonnables? Immense chantier en perspective. On commence à le défricher ce soir avec vous, amis auditeurs. Intervenez dans ce téléphone sonne jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
01 45 24 7000 franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé Telson pour nous joindre. Trois moyens donc. Et au standard, Christophe, bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir à tous. Écoutez, je souhaitais réagir sur le sujet de ce soir en pointant le doigt sur une sorte de contradiction, puisqu'on parle beaucoup effectivement d'agriculture aujourd'hui. Je pense que l'agriculture actuelle n'a pas d'avenir. D'ailleurs, elle le prouve régulièrement. On voit bien les gros dossiers qui vous est amené à traiter, en particulier le lait et bien d'autres choses. On voit que les agriculteurs n'arrivent plus aujourd'hui à vivre de leur métier. Ce sont devenus des prestataires de services, des coopératives et des grands groupes agro-industriels, et ils ont perdu totalement la main sur l'agriculture. D'ailleurs, moi, je suis effaré d'entendre parler d'exploitation agricole et plus de paysannerie et d'agriculture. Pour moi, ça a un sens d'être paysan, et ça a un sens aussi de nourrir la planète. Et aujourd'hui, oui, je pense que ce sens-là, on l'a un peu perdu.
Merci Christophe pour cette question d'ouverture dans le téléphone sonne, pour dialoguer avec nous et avec vous. Serge Papin, bonsoir.
Bonsoir.
PDG de Système U. Guillaume Garot, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur le député de la Mayenne, député socialiste, ancien ministre délégué à l'agroalimentaire, président du Conseil national de l'alimentation. Qui veut répondre à Christophe? Il faudrait que l'agriculture se réinvente, dit-il, et qu'on retrouve la nature derrière ce qui est devenu une très grosse entreprise.
Oui.
Serge Papin?
L'agriculture est en mutation, mais vous savez que le modèle français est un modèle familial. C'est un point d'ailleurs qui est important dans les discussions qu'on va avoir, parce que tous les autres pays d'Europe, je pense à l'Allemagne, à l'Espagne, ont une agriculture dite intégrée, où finalement les agriculteurs ne sont plus que des sous-traitants, parfois même des salariés. Et justement, ce modèle familial, il faut le garder. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de rénover les choses. Et peut-être que tout le défi, il va être de faire cohabiter une agriculture de type, un peu plus entre guillemets, entreprise industrielle, avec une agriculture un peu plus de proximité, vivrière, qui livrera par exemple des produits bio, etc. Et il y a de la place, je pense, pour les autres, mais il ne faut pas opposer les modèles, peut-être.
Guillaume Garot.
Oui, je suis en partie d'accord avec ce que vient de dire à l'instant Serge Papin. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une coexistence des modèles agricoles dans notre pays. La question est de savoir comment on soutient cette coexistence et comment on donne à chacun les moyens de vivre, et en particulier aux agriculteurs, de vivre de leur travail. Parce que je vous rappelle, ça a été dit maintes et maintes fois, que une moitié des agriculteurs aujourd'hui vivent avec, on l'a vu, à peu près 350 euros par mois. Bon, donc ça signifie que l'urgence, elle est là, c'est-à-dire de faire en sorte que les prix soient rémunérateurs, que chacun puisse vivre décemment de son travail. C'est un des enjeux de ces états généraux de l'alimentation. Et pour ça, il faut réinventer les rapports entre les producteurs, les transformateurs et la grande distribution. Alors, je ne sais pas ce que seront, de ce point de vue-là, les réponses apportées par ces états généraux de l'alimentation, mais à l'évidence, le problème, il est devant nous, et il faudra bien qu'on y apporte des solutions. Mais au-delà de ça, je crois que l'enjeu des états généraux de l'alimentation, c'est bien l'alimentation. C'est donc de savoir ce qu'on veut comme politique alimentaire pour notre pays. Parce que qu'est-ce qui est la réalité aujourd'hui? Moi, je considère que l'alimentation, c'est un peu le miroir des inégalités dans notre pays. Hein, parce que selon le lieu où on habite, selon les revenus dont on dispose, selon l'accès aux équipements sportifs ou pas qu'on a à proximité de chez soi, eh bien, on n'a pas la même façon de se nourrir. On n'a pas la même alimentation. Et on en voit les effets. Parce que, regardez aujourd'hui l'obésité, hein, l'obésité qui touche d'abord ceux qui ont des revenus les plus faibles. Donc, l'alimentation, c'est bien une question de justice sociale, finalement. Et tout l'enjeu, selon moi, des états généraux, ça va être de dire comment on répare ces injustices. Et donc, quelle politique alimentaire? Et si on pose la question de l'alimentation comme politique publique, alors, ensuite, on doit définir la façon de mieux produire, la façon de mieux transformer et peut-être aussi de mieux distribuer.
Allez, on retourne au standard. Gérard, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, il y a beaucoup d'écho.
Oui, peut-être là, il y a peut-être moins d'écho.
Exactement, on vous écoute.
Donc, j'avais une question très très simple. J'aimerais bien que ces messieurs, dames nous expliquent comment, au niveau du consommateur final, on achète au même prix un litre d'eau qu'un litre de lait qui nécessite une vache, chaîne du froid, alimentation d'une vache, etc. Donc, comment on m'explique que par ce quel mystère on arrive au même prix final?
Merci beaucoup Gérard pour cette question. Serge Papin, comment on arrive à ce que le litre d'eau et le litre de lait coûtent le même prix?
Oui, alors parce que
c'est une question d'une simplicité biblique et effectivement totalement hallucinante.
Parce que le lait, sans doute, mais alors on va pas s'opposer, on va se mettre à dos des consommateurs peut-être, mais parce que le lait, sans doute, n'est pas vendu assez cher. En tous les cas, comme le disait Guillaume Garot, pas rémunéré assez cher, parce que quand on regarde quand même les prix du lait, je crois qu'en 20 ans. Ils n'ont pas bougé. Et c'est un vrai sujet. C'est tout l'enjeu aussi des états généraux. On parlait de la juste rémunération des agriculteurs. Eh bien, il faut probablement qu'on réconcilie les choses, qu'on réconcilie la filière. Et c'est peut-être ça qui va être intéressant à voir. C'est-à-dire qu'on réconcilie le producteur, le transformateur, le distributeur et bien sûr le consommateur qui a envie de manger mieux et qu'il y ait une production aussi qui corresponde bien à ses attentes. Et il faut se dire, sans doute, que l'alimentation, mais ça, faut avoir le courage de le dire, je pense, hein, qui a été une espèce de variable d'ajustement à d'autres budgets. Il faut savoir que si vous prenez deux chiffres, il y a 30 ans, par exemple, le budget des ménages en alimentation, c'était 30%. Aujourd'hui, il va sans doute atterrir, si on continue comme ça, aux alentours de 10%. Donc ce n'est pas possible qu'on sacrifie la qualité, donc qu'on sacrifie la santé, qu'on sacrifie l'environnement, en détruisant cette qualité. Et je pense qu'il faut faire de la pédagogie, le dire. Alors il ne s'agit pas de réaugmenter les prix d'une manière à considérer, parce qu'on sait bien, on en est tous,
mais de dire
au niveau du pouvoir d'achat.
La qualité a un prix.
Mais il y a un juste prix qu'il faut avoir, et je pense que on est dans une spirale infernale depuis 2009. Je vais vous dire, depuis 2009, c'est la statistique, c'est l'INSEE qui le dit. On a renvoyé dans le budget des ménages 36 euros par an et par ménage. Donc ce qui paraît pas énorme. En revanche, ça fait 1,5 milliard. Si vous cumulez tout ça, 1,5 milliard depuis à peu près une dizaine d'années, ça fait plus de 10 milliards. Mmh. C'est juste des choses qui seraient vachement intéressantes pour l'appareil de production agricole. Donc c'est tous ces sujets-là qui ont besoin d'être mis en débat, mis sur la table. Moi je suis très heureux de voir qu'on va pouvoir en discuter.
Nous on commence là déjà, les états généraux au micro de France Inter. Christiane Lambert, bonsoir.
Bonsoir.
Madame la présidente de la FNSEA, merci d'être avec nous dans ce téléphone sonne. Vous avez la parole sur la question par exemple de l'effondrement des prix. Est-ce que c'est tenable et comment mieux rémunérer les agriculteurs qui travaillent et qui travaillent à perte?
C'est pas tenable du tout. Les agriculteurs le disent et depuis longtemps. Le dogme du prix bas en France, c'est une tyrannie, c'est tueur de paysans. Tueur de paysans. Aujourd'hui, les agriculteurs français ont des niveaux de revenus en forte baisse. 350 euros par mois pour beaucoup d'agriculteurs, les producteurs de lait qui travaillent à perte. Et il y a eu des complaisances politiques dans notre pays pour construire des supermarchés, des supermarchés, des supermarchés, pour avoir une densité de grandes surfaces qui permettent de maintenir le pouvoir d'achat. C'est vrai que le consommateur paye de moins en moins cher pour se nourrir, au détriment de qui? Des producteurs français, pas que d'alimentation, de textiles, de chaussures, d'électroménager, qui a quitté la France. Chaque fois qu'on met de la main-d'œuvre dans un produit dans notre pays, on est plus cher. Donc les agriculteurs français n'ont pas des exploitations délocalisables. Moi, je suis éleveur de porc, je suis dans le Maine-et-Loire, je n'ai jamais déménagé ma porcherie ailleurs. Mais si le prix du porc se casse la figure, comme il s'est cassé la figure quelquefois, parce qu'il y a quand même eu des prix tirés vers le bas par une guerre effrénée des grands distributeurs qui se sont mariés en 2014. Aujourd'hui, il reste 4 opérateurs, 400 000 producteurs, 11 000 industriels, 4 grands distributeurs. Le goulot d'étranglement est terrible. Et moi, j'entends ce qui est dit par M. Papin, mais dans les boxes de négociation, c'est une vie très difficile qui est menée. Parce que les acheteurs veulent des prix toujours moins chers. Ce qui aujourd'hui représente pour moi un sursaut, c'est que enfin des grands distributeurs osent dire on ne peut plus continuer. Monsieur Papin l'a dit, Monsieur Casino l'a dit, Monsieur Carrefour l'a dit. Mais l'Observatoire des prix et des marges a publié un chiffre saisissant. C'est le même que celui que Monsieur Papin vient de donner, 1,5 milliard. Mais c'est 1,5 milliard de valeur qui a été détruite et mise dans un trou en une année, parce que la guerre que se livrent les distributeurs qui tirent les prix vers le bas, ça profite ni à eux, ni aux industriels, ni aux producteurs. Donc, halte à la casse sociale et à la fermeture des exploitations agricoles. Et chacun a sa responsabilité.
Guillaume Garot, et on retourne au standard.
Oui, sur la course au prix bas, moi je partage les propos à l'instant de Christiane Lambert. En effet...
Il va falloir changer de monde, à vous entendre les uns et les autres.
Justement. Hein. Mais alors justement, comment on change de monde?
Vraie question, parce que ça va coûter cher aussi.
Si on veut rééquilibrer le rapport des forces, donc la négociation entre ceux qui produisent, ceux qui transforment, ceux qui vendent ensuite, la distribution, il faut que chacun assume sa part de responsabilité. Moi, je suis député, j'ai voté il y a moins d'un an maintenant une loi qui s'appelle la loi Sapin 2, pour rééquilibrer précisément le rapport des forces et donner davantage de poids aux producteurs, en leur permettant de se grouper, par exemple, lorsqu'il s'agit du lait. On parlait du lait tout à l'heure à travers la question d'un auditeur. Encore faut-il que, du point de vue des organisations professionnelles derrière, ça suive et qu'on mette en place les nouvelles structures pour permettre précisément cette négociation plus équilibrée. C'est une première chose. Deuxième chose quand même, là je rejoins Serge Papin, parce que on voit que les budgets d'alimentation ne cesse de baisser finalement dans les choix des ménages. Aujourd'hui, on met plus d'argent dans un portable que dans un caddie pour se nourrir. C'est ça, aujourd'hui, la réalité des choses. Donc, il faut redonner sa valeur à l'alimentation. Et peut-être qu'il faudra accepter de payer un petit peu plus pour se garantir, mais collectivement, la qualité. Et quand je parle de qualité alimentaire, là, je pense qu'il y a un vrai combat politique pour l'ensemble de notre société. Parce que je disais tout à l'heure que l'alimentation, ça reflète bien les inégalités dans notre pays. Et donc, le combat politique, c'est un combat, je le répète, de justice sociale, c'est-à-dire la qualité alimentaire pour tous. Parce que depuis 50 ans, on a produit de la nourriture en quantité suffisante. On a une nourriture suffisante. On a une nourriture qui est sûre. On n'a plus de problème quasiment aujourd'hui d'insécurité alimentaire au sens sanitaire du terme. Mais le prochain objectif, l'horizon devant nous, c'est de produire vraiment une nourriture saine. Et ça a des conséquences pour l'ensemble de la chaîne alimentaire, ceux qui produisent, ceux qui transforment et ceux aussi qui distribuent.
Emmanuel, bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors, en hommage à Charlie Zanelka, à la France Inter. Alors, moi, je vous ai bien écouté, là, ce soir. Donc, moi, je suis cuisinier dans une collectivité dans le Limousin, pour le conseil départemental. Donc, je sais que ce que je vais dire peut gêner plein de gens. Mais en fait, là, j'ai bien écouté votre député. En fait, là, c'est la volonté politique. La volonté réelle sur le terrain, c'est pas celle-là.
Et alors, pas ça du se tout passe celle-là. Comment ? Ça se passe comment, Emmanuel ?
Alors, la réalité, c'est que moi, je suis arrivé, ça fait 4 ans, hein. Donc, je travaillais que dans des restaurants traditionnels, certains étoilés, donc à un niveau de cuisine, on va dire, à peu près correct. Et j'ai dit, bon, ben, comme vous voulez travailler sur du local, on va travailler sur du local. On va travailler avec le petit producteur du coin, on va travailler avec le petit éleveur de cochons du coin, à Saint-Thierrier pour des culs noirs. Mmh. On travaille en local. Mais après, derrière, en fait, on vous dit, ah là, non, c'est pas possible, parce que là, il y a les normes alimentaires, il y a les normes HACCP, vous faites tout comme il faut dans votre cuisine, hein. Vous faites faire les analyses, tout est bien, mais on vous dit, ah non, non, achetez du tout fait. Surtout, n'allez pas prendre de risques. Parce que l'administration française, pour nos gamins, où on nous parle d'obésité, de problèmes alimentaires, de problèmes de goût, en fait, tout ça, c'est du pipeau. Ça, c'est de la politique politicienne. La réalité, c'est acheter du tout fait, acheter des boîtes et tout ira bien. Mmh. Parce qu'on ne veut pas prendre de risques. Et l'administration française dans son ensemble, c'est toujours ça. C'est l'immobilisme qui avance.
Alors dites-nous, Emmanuel.
Et ça, on ne peut pas l'arrêter.
Emmanuel, dites-nous du coup ce que vous faites, vous, en cuisine, une fois qu'on vous a dit ça.
Je fais des petits choux à la crème maison. Je fais de la pâte à choux, j'ai des collègues. On dit, j'ai un super pâtissier avec moi, donc on fait des religieuses. Et puis à la fin, on me dit, ah oui, mais c'est compliqué parce que vous avez mis des vrais œufs. Alors, honnêtement, achetez les touffés surgelés. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de risque alimentaire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas cuisiner. C'est-à-dire que la réalité pour nos gamins en France, c'est qu'on n'a pas la possibilité de faire de la cuisine. On vend de l'agroalimentaire, alors qu'on a des petits producteurs à côté de chez nous qui peuvent nous vendre des œufs bio, qui peuvent nous vendre... Et à la fin, le repas moyen, il est à 1,70€ par gamin. Mmh. Il n'est pas à... Et c'est la réalité. Mais on vous dit, ah non, non, c'est trop compliqué, ça. Ce qu'il faut, c'est pas de vagues, pas de problème, tout ira bien.
Emmanuel, tout ira bien. Emmanuel,
ça, c'est la réalité.
Emmanuel, vous êtes cuisinier, mais il y a un mot aussi pour décrire ce métier, c'est chef. Est-ce que vous êtes chef dans votre cuisine en dernière instance? C'est-à-dire, si vous voulez faire des religieuses, vous les faites? Ou est-ce qu'on vous tord le bras pour que vous les achetiez surgelés?
On n'est jamais chef, on a toujours un supérieur, du supérieur, du supérieur. Et il faut pas de vagues. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut... C'est ça le problème en France. Dans notre métier, nous, en tout cas, c'est celui-là qu'on rencontre tous les jours. C'est-à-dire qu'on en réfère toujours à quelqu'un qui est au-dessus de vous. Et qui, lui, veut pas prendre de risques. Et lui, il est pas cuisinier. Il est gestionnaire, il est principal de collège, il est directeur d'un pôle, du pôle collège, d'un département, et il veut pas qu'il y ait de risques.
Restez en ligne, Emmanuel. Emmanuel, s'il vous plaît, restez en ligne. On fait circuler la parole autour de la première partie de votre témoignage et de vos questions, et vous intervenez quand vous voulez. Christiane Lambert. On a quelqu'un qui a envie de faire, qui a envie d'acheter local, qui a envie de faire de la qualité, et il décrit, Emmanuel, être écrasé par la peur, le risque et les normes.
Ce qu'il dit est très juste, et je l'ai entendu encore il y a quelques semaines de la bouche de Dominique Deugniol, maire du Pirée-sur-Seiche en Ille-et-Vilaine, qui a voulu changer tout dans sa cantine et qui s'est heurté aux mêmes difficultés. Il y a une habitude qui a été prise, aussi pour des raisons sanitaires de sursécurisation et de zéro risque, d'acheter du tout fait, de l'aseptiser, etc. Et les politiques qui veulent vraiment répondre à ce besoin d'acheter local, de travailler avec les chambres d'agriculture qui ont mis en place des catalogues d'approvisionnement local, ont un mal fou aussi à faire admettre qu'il peut y avoir des achats locaux qui ne sont pas aseptisés, etc., mais qui correspondent aussi à des produits de goût qui rentrent dans les cuisines. Mmh. Il y a plusieurs choses qui jouent.
Pourquoi c'est si difficile ?
Mais parce que les habitudes ont été prises pour zéro risque. Les produits industriels sont très sécurisés. Les produits qui sont achetés à côté, certains sont bons quand on y met le prix. Quand on achète low cost, parfois, c'est moins bon. Ça, moi, je peux dire que j'ai mangé dans le train hier, ça devait être très low cost parce que c'était vraiment pas bon.
Mais ça devait être cher aussi.
Et c'était cher aussi. Mais il y a le sujet sanitaire qui est un vrai sujet, et il y a aussi le sujet des habitudes qui ont été prises. On sert aux enfants que des cuisses de poulet. Je suis désolée, un poulet, ça a deux cuisses et ça a deux ailes, ça a des filets. Les habitudes qui ont été prises aussi de facilité de la restauration à la cantine, dans les cantines, sont à changer. Les chambres d'agriculture, aujourd'hui la mienne, forment les cuisiniers, réapprennent à cuisiner le poulet entier, à le découper. On donne le bon format de poulet qui fait tel poids pour que coupé en six, ça corresponde à une nouvelle portionnisation de l'alimentation. On se heurte à des complexités logistiques pour revenir à ça. Toutefois, il y a quand même des exemples où ça marche, mais l'autre sujet qui heurte, c'est le prix. Parce que beaucoup de politiques disent il faut ramener du local dans la cantine, mais dès qu'on parle d'augmenter de 10 centimes le prix du repas, tout le monde lève le bras au ciel et c'est la catastrophe. Et on va acheter des poulets allemands qui sont 30% moins chers que les poulets français. Le pourcentage de poulets allemands dans les cantines est en train d'augmenter. Au moment où tout le monde parle de manger français, c'est invraisemblable.
Oui, et en plus, la France est censée être le pays phare de la gastronomie mondiale, le pays aux terroirs innombrables.
C'est vrai.
Mais c'est vrai. Mais pourquoi un cuisinier comme Emmanuel ne peut pas le faire vivre dans son propre métier, Guillaume Garot ?
Moi, je veux m'inscrire en faux par rapport à ce discours qui est largement pessimiste sur le mode « on ne peut rien faire ».
Emmanuel est encore en ligne, il vous écoute.
Mais je veux répondre à Emmanuel et je l'invite dans mon département, la Mayenne. Pourquoi ? Parce que dans les collèges de mon département, aujourd'hui, la cuisine qui est servie est faite à base, pour plus de la moitié des produits, de production locale ou bio. plus de la moitié des produits. Ça veut dire que c'est possible. Alors en effet, comme le disait à l'instant Christiane Lambert, il y a sans doute des habitudes à changer. Il y a sans doute des formations à faire avec ceux qui sont aux responsabilités dans l'achat, vous savez, hein, dans les collèges, mais aussi qui sont derrière les fourneaux. Ça va de soi. Mais je pense que si on a une volonté politique, nationale, locale aussi, si on est capable d'accompagner ceux qui sont derrière les fourneaux, une fois encore, eh bien, on y arrive.
Il y a la volonté politique. Il y a la volonté politique.
En tout cas, moi, j'ai été. Moi, j'ai été en responsabilité.
On a dû faire 40 téléphones sonnent sur le sujet.
Aiguillonné par les professionnels. Oui.
Et on voit. Monsieur de Morand.
Non, mais on retombe à chaque fois sur les mêmes questions.
Mais sauf que, si évidemment, on se donne pas les moyens, on n'y arrivera pas. La volonté politique, elle est nationale, mais elle ne peut pas être que nationale. Elle doit être locale. Ça veut dire qu'il faut en effet que les présidents de conseils généraux, départementaux, pardon, les élus locaux, les maires, les présidents de région assument aussi, hein, et se retroussent les manches pour
ça. Il faut assumer quoi? Une augmentation de prix?
Faut des cantinières aussi.
Il faut assumer l'ensemble d'une politique, c'est-à-dire la cohérence d'une politique. Je disais à l'instant qu'il faut pas simplement s'en remettre aux cuisiniers, mais aussi à ceux qui font les achats, parce que c'est là, hein, dans la politique des achats publics, qu'on choisit tel ou tel produit. Mmh. C'est très important. Et qu'on soit capable de travailler avec les producteurs, avec ceux qui sont les transformateurs locaux. On a la capacité de faire. Et moi, j'espère que, puisqu'on est là pour les états généraux de l'alimentation ce soir, eh bien, on sera capable de généraliser les bonnes pratiques. Mais ces bonnes pratiques, elles existent. Arrêtons les discours toujours pessimiste
sur l'alimentation. Elle n'existe pas partout, puisqu'on a un cuisinier, Emmanuel, qui ne veut que bien faire et qui est empêché de le faire. Voilà, on n'a pas inventé les choses.
On peut montrer que l'inverse est possible. Et on peut montrer qu'on peut aussi bien faire.
Serge Papin doit parler. Serge Papin.
Par analogie à ce qui est dit ici, je pense que c'est la même chose aussi chez les consommateurs. Parce que il y a eu des habitudes de prise et vous parliez tout à l'heure d'injustice, Guillaume Garot. Je ne sais pas si c'est de l'injustice, parce que finalement les produits sont souvent plus chers, qui créent l'obésité ou qui créent les problèmes de santé. Et oui, parce que si vous
pas
achetez
toujours,
aujourd'hui,
oui. Non
mais si vous passez à la cuisine, parce que c'est ça le sujet, il faut transformer un tout petit peu le produit. Mais si vous passez à la cuisine, vous achetez aujourd'hui un légume de saison à la saison, ça vaut 1 euro le kilo.
Oui.
Il faut 200 grammes, ça fait
aussi,
ça
bien
fait
sûr,
20
bien
centimes.
Sûr.
D'euros.
Je suis d'accord avec
ça
vous,
fait 20 centimes d'euros. Et si vous prenez du porc qui coûte à peu près, du porc de bonne qualité qui coûte à peu près 7 euros le kilo, de très bonne qualité, pareil pour 150 grammes, ça va vous coûter 1,30 euro. C'est-à-dire pour 1,50 euro, vous ne mangez... On ne peut pas dire que là, les produits de qualité soient chers. C'est la même chose. Et puis juste pour répondre...
Mais donc
quand même,
il faut cuisiner alors, pour aller jusqu'au bout.
Mais il faut remettre l'envie... Passer un quart d'heure. D'abord, il faut prendre le temps, ça peut être un plaisir de faire ses courses. De les acheter. Ensuite, passer un quart d'heure à la cuisine pour faire quelques légumes et manger un produit de saison à la saison, ça vaut pas cher. Et on mange des produits de qualité, on est en bonne santé. Mais je veux juste, pour répondre à Guillaume Garot, à Paris, donc puisque nous sommes en région parisienne, il y a un projet où moi je connais des écoles, personnellement, où il y a des cantinières, ils vendent des produits de locaux, ça se passe très bien.
Ah ben voilà.
Et on est juste en train...
Super.
Non mais la mairie de Paris a juste décidé de confier à un gros opérateur, Sodexo pour pas le nommer, la responsabilité des cantines. Donc des petites cantines où ça se passait très bien, avec des enfants qui sont... on va à l'inverse. Alors voilà, renseignez-vous.
Comment vous l'expliquez,
Guillaume Garot, parce que moi je connais...
Comment vous l'expliquez, Guillaume Garot?
Quoi donc?
Comment, ce que vient de décrire Serge Papin?
Écoutez, je sais pas ce qu'a été le choix de la ville de Paris.
Il vient de le décrire en l'occurrence.
Ce qui est vrai, c'est que moi je le vois, lorsque on est sur de la cuisine, on se l'appelle en régie, hein, direct, c'est-à-dire par des agents publics, on a une capacité, en effet, à faire du local, à travailler du local. Après, on peut très bien imaginer que dans les conventions qui sont passées avec les opérateurs comme Sodexo, il y a dans le cahier des charges l'obligation de recourir à des produits locaux. Ça peut exister, mais il faut là aussi beaucoup d'exigences lorsqu'on est un politique vis-à-vis de ces grands opérateurs de l'agroalimentaire, c'est vrai.
Christiane Lambert, puis Tulipe au standard.
Depuis les manifestations agricoles de 2015... et 2016, face justement à l'effondrement des cours pour les agriculteurs, nous avons réussi aussi à faire changer les choses. Si ça a changé chez M. Garot, c'est parce que la FDSEA de son département, la Mayenne, a poussé pour que le conseil départemental s'engage en disant « Vous subventionnez de l'alimentation, Pourquoi ne subventionneriez-vous pas l'agriculture mayonnaise indirectement qui sait produire de bons produits? Donc c'est une volonté politique doublée d'un accompagnement logistique, mais depuis 2 ans, ça bouge. Et nous, nous avons été approchés par des...
On n'est pas dogmatique.
Par des mairies d'arrondissement, par des mairies d'arrondissement qui veulent résister justement à la vague prônée par Mme Hidalgo de Sodexo pour tout le monde.
Mais comment vous l'expliquez ça, la vague Sodexo pour tout le monde
c'est
à la mairie de Paris?
C'est plus simple et c'est certainement un petit peu moins cher et c'est plus simple. C'est je veux voir une tête et il n'y a pas eu de cuisinier, on fait livrer des quantités et on met.
Et d'ailleurs, ça veut dire que c'est mauvais, Sodexo?
Non, mais non, c'est pas mauvais.
Non, mais je vais jusqu'au bout du questionnement.
Ce qui est très important, c'est de voir qu'aujourd'hui, les Français changent leur rapport à l'alimentation. Ils demandent aujourd'hui plus de connaissances sur l'origine. On s'est battu, la France, on est en étiquetage d'origine, en système d'expérimental pour 2 ans. Les Français veulent plus de sens, veulent savoir comment a été fabriqué le produit. Ils deviennent plus curieux, ils aiment cuisiner, les émissions de cuisine à la télé y contribuent. Et ça tombe bien parce que nous, producteurs, on en a assez de voir l'alimentation banalisée, payée toujours moins cher, importée.
Permettez-moi une question.
Et les états généraux doivent servir à ce double contrat économique et sociétal. Vous voulez manger nos produits, ok, quelques centimes en plus et on vivra mieux.
Je vais poser la question différemment. Est-ce que la restauration collective n'est pas un formidable levier pour faire changer les choses, précisément?
Si elle est pilotée correctement, la réponse est oui. Il y a des habitudes de facilité qui avaient été prises, peu chères et simples. Manger mieux et payer un petit peu plus parce qu'on mange de la qualité à tous égards et qu'on mange des produits français. Donc on soutient les producteurs français et on soutient l'emploi en France. Vos emplettes sont vos emplois. Si on va en permanence acheter à l'étranger des produits low cost, qu'est-ce que vont devenir les agriculteurs français? Ils disparaissent.
Tulip est au standard. Bonsoir et bienvenue, Tulip.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Merci pour vos émissions. Moi, je voulais juste parler un peu de, enfin, témoigner de mon parcours. Je suis directeur artistique je suis devenue aujourd'hui, je suis boulangère. J'ai passé mon CAP et j'ai pris cette décision parce que je me suis rendu compte que les valeurs étaient importantes de bien manger, que mon métier n'avait plus de valeur et que je me suis dit qu'il fallait que j'intervienne à ma toute petite échelle avec mes tout petits moyens pour pouvoir donner du pain sain et de qualité. Or aujourd'hui c'est compliqué d'avoir ça parce qu'il y a un vrai problème avec le gluten, alors que le gluten n'est pas un problème, c'est simplement la façon dont on fait le blé, que les céréales sont hybridées, azotées avec énormément de fongicides et de pesticides, et qu'il me semble que si on ouvrait, si l'Europe aussi, avec le catalogue européen des céréales, ou si on pouvait avoir des blés anciens, si on pouvait travailler autrement et avec des plus jolies méthodes de panification aussi dans le métier du boulanger.
Mais vous y arrivez, vous, Tulip, ou pas? Ou c'est l'enfer de travailler comme vous venez de le décrire là?
Alors, je commence, moi. Je commence, mais j'ai appris auprès d'un très grand boulanger qui s'appelle Thierry Delabre, qui fait du pain incroyable avec des farines anciennes et qui fait avec que du levain parce qu'il il était diabétique et il s'est rendu compte qu'en mangeant du pain qui était vraiment nutritif, parce que aussi aujourd'hui nos baguettes
elles ne sont plus nourrissantes ou pas assez en tout cas. Tulip, permettez-moi encore une dernière question. Vous êtes donc considérant l'état actuel de l'alimentation, il faut que je passe derrière les fourneaux moi-même pour prendre mon destin en main, c'est ça? Ou contribuer en tout cas à l'amélioration générale de la qualité?
Oui, à ma toute petite échelle, vraiment.
Mais mais ça commence par là. Hein. Si vous êtes boulangère et que vous avez une boulangerie et que vous vendez du bon pain, c'est l'un des fronts du combat. Restez en ligne, Tulip. Christiane Lambert va vous répondre. Et ensuite, Guillaume Garot.
S'il y a une profession qui a très bien évolué pour répondre à l'attente qualitative des consommateurs, c'est la profession d'artisan boulanger. Aujourd'hui, quand on va dans une boulangerie, on a l'embarras du choix. Il y a des baguettes classiques, des baguettes aux céréales, des baguettes au levain, des baguettes au maïs, au sésame, etc. etc.
Et le pain est meilleur, tout simplement.
Et le pain est meilleur. Évidemment, ça est aussi une question de prix. Les boulangers, d'ailleurs, ont tiré leur épingle du jeu face à la vente de pain en grande surface, pardon, monsieur Papin,
grande surface. Grande surface, elles font tout. Nos magasins sont moins grands que vos d'exploitation, ouais, cher enfin, Christian Lambert.
Enfin, le chiffre d'affaires est différent aussi.
Monsieur c'est bon, celle-là, je l'avais jamais entendue. Les magasins sont plus petits que vos exploitations.
C'est quand même des grandes surfaces. C'est quand même des grandes surfaces. Monsieur Papa, même
si les assises de l'alimentation.
Oui, mais il y a tout. Il y a l'embarras du choix chez Monsieur Papin, parce qu'il y a des grands U, des petits U, et il y a des U de proximité, c'est pas le sujet.
J'ai pas d'action, c'est ni d'intérêt à défendre.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, en grande surface, on trouve aussi une diversité de pain, parce qu'il y a une attente des consommateurs. Et juste un mot, la présence de gluten ou pas dans le pain, c'est pas lié aux pesticides et aux fongicides. Ça, c'est un truc faux, mais qui a été vite dit, mais c'est pas la réalité biologique.
Guillaume Garot, le pain.
Le pain. D'abord, le pain, en effet, il a amélioré sa qualité au fil des années. On a aujourd'hui un pain qui est moins salé qu'il ne l'était il y a encore 5 ans. Bon, parce qu'il y a eu un gros effort des pouvoirs publics pour accompagner les efforts, justement, des professionnels de la boulangerie. Maintenant, il y a d'autres étapes qu'il faut passer pour les autres aliments. Hein. Tulip, dans son propos, parlait de la santé. On a devant nous des défis majeurs. Hein. La question des perturbateurs endocriniens, oui, il va bien falloir traiter ça. La question des nitrites dans la charcuterie, il va bien falloir traiter ça.
Oui, les pesticides partout.
Ça fait juste, nous, sur les perturbateurs endocriniens, ça fait plus de 5 ans qu'on est
mais
dessus.
Mais oui, mais bien sûr.
On a pris le sujet à bras-le-corps.
Mais très bien, mais tant mieux. Tant mieux. Non, mais tant mieux si Système U a pris conscience. Et on sait que Système U, de ce point de vue-là, a une certaine conscience des choses. Très bien, mais je le dis en termes politiques, c'est-à-dire ce que sera demain, ce que devra être demain une politique de l'alimentation, c'est à la fois une politique qui s'appuie sur les préoccupations écologiques, environnementales, elles sont très fortes dans notre société aujourd'hui, et les préoccupations de santé publique.
Ça veut dire,
écoutez, excusez-moi, mais il faut demander à l'actuel gouvernement, de nous préparer, dans le cadre des états généraux de l'alimentation, des pistes très concrètes.
Bah, et c'est ça, ça devrait sortir
exactement.
Je voudrais, s'il vous plaît, donner la parole aux auditeurs de France Inter. Alain, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir France Inter, bonsoir les intervenants et les auditeurs.
Vous avez la parole.
Je suis dans le département du Cantal, dans une petite ferme en indépendant. Donc il n'y a pas de GAEC, il n'y a pas de CUMA, c'est tout seul. En bio, et on a l'impression d'être les oubliés. Parce que si vous avez grand, les aides de la PAC, notamment céréaliers, sont payées très vite. Si vous êtes en cumin, GAEC, c'est payé moyennement vite. Si vous êtes petit, indépendant, dans des départements retirés de tout un petit peu, eh bien, ça fait un an et demi qu'on n'a pas eu encore nos aides. Mmh. Et on nous annonce de la DDT qu'il va falloir attendre encore 8 mois. Donc, on paye l'organisme certificateur, on paye quand même pas mal de céréales, parce qu'en Cantal, on n'a pas de céréales, elles sont quand même bien plus chères. Le bénéfice, il est où? Biolay va ramasser notre lait, parce que maintenant, il s'approche un petit peu plus du Cantal. Mais au niveau de la viande, on n'a toujours pas de marché. Il faut vraiment être solide pour tenir de la bio dans des départements qui le sont naturellement. Hein. Donc, il y a un gros effort à faire. On est un peu les oubliés, quoi. Et aujourd'hui, j'ai de la reprise derrière avec un point d'interrogation. Est-ce qu'ils doivent reprendre?
Restez en ligne, Alain. On va vous répondre sur les points que vous venez de soulever. Je salue Christian.
Oui, bonjour.
Bienvenue, on vous écoute, Christian.
Bonjour Nicolas, bonsoir à tous. Voilà, je me présente rapidement. Je suis éleveur de cochons dans la Drôme, du côté de Diolfi. Mmh. Je suis en bio et mes cochons sont en plus en plein air.
Magnifique.
J'ai une minuscule exploitation, puisqu'on fait à peu près une centaine de cochons par an. À comparer aux 10 000 ou aux 20 000 des exploitants bretons.
Ah ben c'est une petite famille, là, que vous décrivez.
C'est une petite famille.
Vous les connaissez tous, vos cochons.
Voilà, je travaille avec ma compagne, donc on est tous les deux à travailler avec nos 100 cochons. Alors, on fait évidemment le boulot d'élevage, mais on a aussi tout le boulot de transformation. On fait du boudin, des rillettes, des pâtés, des saucissons, du jambon. Voilà, et je suis vraiment frappé. Ça fait 7 ans hein, que je fais qu'on s'est installé dans ce métier-là. vraiment frappé par la demande des consommateurs. C'est absolument incroyable la demande qu'il y a. Et on est sans arrêt en train de dire, écoutez, on n'a pas assez de saucissons, on n'a plus de jambon. Donc il y a vraiment une demande. Il y a moyen de vivre avec ça. Alors on essaye de, on prend souvent des stagiaires, donc on essaye de les pousser à s'installer dans cette production parce qu'il y en a très peu. Mmh. La Drôme, qui est le premier département de France, on est quasiment les seuls à être en bio et en plein air.
Et ça a l'air bon, hein, ce que vous vendez en plus, Christian.
Ouais, c'est délicieux. Alors je voulais prendre l'exemple du jambon parce que votre intervenant tout à l'heure parlait du jambon, du problème des sels nitrités. Mmh. On fait du jambon sans sels nitrités, du jambon cuit. Donc on cuit à l'os pendant 12 heures, pendant 24 heures, tout doucement, à 62 degrés.
Ça donne faim à ce temps-là.
C'est très très bon, je vais manger un peu tout à l'heure.
On vient pour l'apéro.
Coupé au couteau et on le fait sans sel nitrité. Donc le sel nitrité, je vous rappelle, c'est donc ce produit qu'on met dans la charcuterie, et notamment dans le jambon cuit, qui fait que le jambon est rose. Mmh. Voilà.
Oui, alors dites-nous vite parce que le temps file, Christian.
Le nôtre, donc, il est gris, donc effectivement, il faut parler avec les gens pour expliquer que le jambon est gris parce que c'est comme du rôti de porc. Ben oui, c'est gris. Quand ça s'oxyde un petit peu, c'est gris.
Ah, vous m'avez donné faim, Christian. On fait tourner la parole. Merci beaucoup d'être intervenu. Deux agriculteurs bio, deux mondes, hein. L'un avec des problèmes, Alain, qui les décrivait bien, et Christian, qui au contraire connaît le succès. Christiane Lambert.
Le premier qui rencontre des problèmes pour ses versements d'aide conversion bio, c'est d'où ça vient. C'est Monsieur Le Foll qui est parti sans avoir soldé la totalité des aides PAC. Il y a un an et demi de retard, record du monde, il n'y a jamais eu autant de retard. On travaille pour que les aides arrivent plus vite. Ce qui est dommage, c'est que le gouvernement qui avait cette volonté d'aider plus la bio n'ait pas prévu les budgets pour le faire. C'est comme ça.
C'est ballot, comme on
dit. Aujourd'hui, il y a une demande.
Je corrige.
Aujourd'hui, il y a une demande plus importante de produits en agriculture biologique. Une augmentation avec une croissance à deux chiffres, du 20%, du 14%. C'est en train de monter de façon très importante dans la région des Pays de la Loire. Par exemple, nous aurons 15% de produits sous signe officiel de qualité en agriculture biologique. Et il y a un vrai besoin de répondre au marché sur ce sujet-là. C'est quand même idiot d'importer des produits bio venant d'autres pays alors qu'on peut les produire en France. Donc il faut accompagner ces producteurs-là. Mais il faut aussi que les consommateurs mesurent que ces produits-là sont plus chers. Quand je vois aujourd'hui Michel Édouard Leclerc faire des promos sur le bio discount, ça m'inquiète beaucoup, ça nous prépare les mêmes jours difficiles que pour l'agriculture classique.
Guillaume Garot, si vous voulez laver l'honneur de Monsieur Le Foll.
Oui, parce que le précédent gouvernement a améliorer, augmenter les budgets dédiés à l'accompagnement du bio et des conversions bio.
Il
faut juste rappeler une chose,
c'est que
du 2016, il y a eu 20% de conversions vers le bio en plus dans notre pays.
Et d'abord, l'intendance ne suit pas, c'est ça ?
Mais c'est vrai qu'il y a eu des difficultés, bien sûr. Mais moi, je ne le nie pas, mais je n'oublie pas non plus les efforts qu'a fait le précédent gouvernement pour essayer de répondre à cette augmentation des conversions dans notre pays. Et ça, Madame Lambert, il faut quand même pas l'oublier.
Serge Papin.
Oui, on est. Alors le bio, moi je suis évidemment favorable. On a contractualisé en bio, nous, d'une manière assez bio-lait dont parlait le premier interlocuteur. On est le premier fournisseur de bio-lait. Mais il est en train de naître, je trouve, là, actuellement, une troisième voie qui est intéressante, qui permet à l'agriculture, finalement, de produire sans inconvénients avec les intrants, sans pesticides, ou très peu, et sans inconvénients, sans herbicides. Cette troisième voie qui conjugue un peu d'agroforesterie et de rendement, donc c'est une agriculture, comment dirais-je, positive, qui n'a plus les inconvénients. On se dirige vers ça, ça va nous permettre, le bio continuera à exister bien sûr, mais ça va nous permettre d'avoir une accessibilité aux produits sans les inconvénients, ni sur l'environnement, ni sur la santé, c'est-à-dire ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Mmh. Nous sommes en train de nous engager fortement avec des grands groupes là-dessus, et avec évidemment tout le monde paysan, agriculteur. Et je pense que cette voie est porteuse d'espoir.
Il y a un modèle économique là ?
Il y a un modèle économique qui est en train d'évoluer, parce que le bio peut avoir, attention, hein, c'est pas ce que je dis, ne vous méprenez pas, je suis favorable au bio, mais si l'élitisme entre guillemets parfois du bio peut être rédhibitoire, et du coup cette troisième voie est aussi intéressante pour le rapport qualité-prix.
Guillaume Garot, un mot.
Ne réduisons pas la qualité au bio. Oui. L'objectif, c'est que tous les modes de production garantissent la qualité alimentaire. C'est quand même ça l'objectif.
Mais si on peut
politique.
Manger une orange et éviter de manger une bombe de pesticides,
ah bah c'est beaucoup
ce
mieux.
Serait quand même sympathique.
C'est beaucoup mieux. C'est pour ça qu'il faut améliorer encore, continuer encore sur l'agroécologie.
Christiane Lambert, un mot.
En France, la consommation de pesticides, que ce soit pour les mauvaises herbes ou pour les maladies, régresse parce qu'il y a beaucoup de travail qui est fait. Et c'est vrai que la troisième voie d'agriculture raisonnée, ou on l'appelle comme on veut, est probablement une voie médiane parce que le bio plus cher n'est pas fait pour toutes les bourses non plus. On parlait d'accès à l'alimentation, n'oublions pas quand même qu'il y a des Français qui ont des budgets limités.
En tout cas, je reçois un SMS d'une amie qui me confirme que les saucissons de Christian sont magnifiques et qu'il est effectivement
en rupture de stock.
Écoutez, là, il nous reste plus de temps, mais Christian est encore en ligne. On va le lui demander hors antenne et on donnera ça comme information demain. Merci à tous les trois. Merci aux auditeurs d'Inter. Le journal à suivre.